Bon après-midi à tous et à toutes. Ma joie est d'autant plus grande que je ne suis pas le seul à porter une cravate. Je me sens moins isolé. Frère, merci de porter une cravate, tout comme moi. Parce que souvent, on me demande si je viens de Québec ou du parc jurassique. Et il y a de moins en moins de gens qui portent des cravates de nos jours. On entre ici et on voit le phénomène devant, chauve, laid, vieux, qui porte en plus une cravate. On se dit, on s'est trompé d'adresse. Non, vous êtes au bon endroit. Alors, merci de me donner un point d'identification. Ça me console grandement. Tous nos visiteurs et nos visiteuses, donc, salutations et une bienvenue cordiale et chaleureuse. Ma femme nous a quittés pour un monde meilleur, non? Elle devrait revenir. Elle a toujours un petit peu de difficulté à écouter mes prédications, mais que voulez-vous, hein? Voici faire. Dans quelle épître en sommes-nous depuis déjà un bon petit moment quand même? L'épître aux Éphésiens, en effet, et nous en sommes à la troisième partie. Vous vous souviendrez sans doute que nous avions divisé notre texte en quatre portions. Premièrement, les versets 3 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10, la nouvelle vie que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Si Dieu nous a donné une nouvelle vie, ça veut dire quoi? On n'en avait pas avant. On était mort avant, on a reçu une nouvelle vie en Christ Jésus. La deuxième partie, chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 21, la nouvelle société que Dieu a créée en Christ Jésus. Avec tous ceux auxquels il a donné cette nouvelle vie, il forme une nouvelle société. On sait que la société première, elle avait été fondée en Adam, et on sait ce qui s'est produit. Hein? D'aucune façon, les règles n'ont été respectées, ça a été transgressé, de sorte qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, hein? Un petit peu des individualistes qui nous unissons pour certains buts, pour donner un peu plus libre cours à nos passions, mais on ne forme pas véritablement ce qu'on devait être, une société qui honore Dieu. Le troisième point, la troisième division, là où nous sommes maintenant, ce sont les nouveaux standards que Dieu attend de sa nouvelle société, chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, le verset 21. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, alors que nous allons compléter notre réflexion sur le chapitre 4. On y va à pas quasi feutré, mais je pense que ça avance quand même à bon train. Alors, nous allons lire donc ce matin le chapitre 4, les versets 25 à 32. Manifestement, c'est quelque chose qui suit ce qui est venu avant. Hein? C'est pourquoi, c'est la conséquence de. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a des beaux mots ici. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Amen. Seigneur, bénis cette toute simple parole à nos cœurs, qui ont toujours besoin de revenir à la simplicité du Christ, aux éléments de base de notre vie, de notre marche avec toi. On te le demande pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen. C'est un texte qui est un petit peu embêtant à prêcher, très honnêtement, parce qu'une fois qu'on l'a lu, on a tout dit. Hein? Une fois qu'on l'a lu, c'est clair ce qui ressort de là-dedans. Ne mentez pas, ne vous mettez pas en colère. Et on n'a pas besoin de prêcher pendant 15-20 heures sur ces choses-là. Une fois que c'est dit, c'est dit. Mais on va quand même tenter de développer un peu quelques notions qui se trouvent dans ce texte-là. Parce que la Bible le fait. Hein? Et la parole nous dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, et ça nous rend effectivement capables de faire l'œuvre du Seigneur, de devenir de meilleurs pêcheurs d'hommes avec cela. Donc, au chapitre 4 où nous en sommes, de notre épître, Paul a commencé à traiter de la conduite chrétienne, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire l'application des grandes doctrines qu'il nous a présentées dans les trois premiers chapitres de sa lettre. Mais il l'a fait indirectement. Premièrement, il a rappelé aux croyants d'Éphèse ce qu'ils étaient avant que Dieu ne les sauve. On l'a vu, ils étaient endurcis contre Dieu, ils avaient l'intelligence obscurcie, ils étaient séparés de Dieu, insensibles à la sainteté, donnant libre cours à leurs passions. Voulez-vous qu'on commence ça? Parce que c'est ce que nous sommes si nous ne sommes pas venus au Christ Jésus. On ne peut pas se compter de pipe ici, là, se faire toutes sortes d'accroire. Ce n'est pas venu au Christ Jésus, c'est ce que nous sommes. Nous sommes endurcis contre Dieu. On peut avoir quelques sensibilités à quelques divinités, non? À un Dieu qu'on se fait à notre image, là, mais on est endurcis contre le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. On a l'intelligence obscurcie spirituellement, on est séparé de Dieu, on est insensible à la sainteté et on donne libre cours à nos passions. C'est le CV d'un non-converti, de quelqu'un qui n'est pas venu au Christ Jésus. Deuxièmement, Paul leur rappelle qu'en dépit de cet arrière-plan ténébreux, ils ont été majestueusement bénis, si vous me passez l'expression, par Dieu qui les a amenés à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et qui les a conduits dans une voie tout autre. Nous lisons effectivement au verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Alors, ça nous dit quelque chose, ça, sur ce qu'un croyant est. Un croyant, c'est quelqu'un qui a été instruit par le Christ. Quelqu'un qui est instruit par le Christ, c'est pas quelqu'un qui accidentellement vient à l'église le dimanche seulement, mais c'est quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu. C'est quelqu'un pour qui Dieu est tellement prioritaire qu'à tous les jours, dans un moment ou dans un autre, on trouve un petit raccoin et un petit moment pour passer un temps avec notre Dieu dans sa parole. Parce que c'est sa parole, comme le dit si bien Romains 12, qui renouvelle notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir l'intelligence renouvelée? L'apôtre nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, n'ayez pas la même forme ». Le même discours, les mêmes activités que le siècle présent, mais soyez transformés, changez complètement de forme, et ça se fait par l'œuvre de l'Esprit et de la parole de Dieu. Voyez? Alors, lorsqu'on est instruit du Christ, on est instruit par sa parole et par son Esprit Saint. Ce n'est pas une espèce de mystique qui nous tombe du ciel, n'est-ce pas? Et le lendemain, personne ne nous reconnaît. Ça se fait progressivement. Maintenant, en quoi consiste cette nouvelle voie et comment y marcher? Ici, l'apôtre mentionne 5 exemples de cette nouvelle marche-là, mais avant, il donne une illustration extrêmement intéressante de la signification de cette nouvelle façon de vivre, au verset 22-24. « Vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ça nous parle de nouvelle naissance. Nous avons besoin d'être né, de naître de nouveau, hein, d'être fait de nouveau. C'est intéressant parce que nous sommes ici dans la mouvance du dépouillement et du renouvellement. Il est impératif de se dépouiller pour être renouvelé. C'est une très, très belle vérité. L'Évangile ne consiste pas à chercher à planter des fleurs dans un jardin infesté de mauvaises herbes, mais on commence d'abord progressivement à enlever les mauvaises herbes et là, on sème les fleurs qui vont prendre vie. En simple, la seule preuve tangible d'une conversion, ce n'est pas supposément d'avoir accepté Jésus, mais c'est une vie qui reflète la présence du Christ en moi. Combien de gens rencontre-t-on? Ah oui, j'ai accepté Jésus. Oui, oui, j'ai entendu. Oui, oui, je suis venu à lui. Oui, oui, je connais ça. Oui, oui, je vais là. Mais est-ce qu'on voit la présence du Christ en eux? Est-ce qu'on voit qu'une vie nouvelle a pris place ou on pratique une religion en plus de ce qu'on faisait auparavant? La véritable preuve d'une nouvelle naissance, c'est la présence du Christ en nous. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Intéressant les écrits joanniques, hein? L'apôtre Jean, le grand théologien du Nouveau Testament, avec Paul. Il nous dit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 4, « Celui qui dit, je l'ai connu, l'accepter, les reçu. Ah oui, je suis venu à lui. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, t'es un menteur. » C'est pas moi qui le dis, la parole. « Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » On comprend qu'on ne garde pas les commandements parfaitement, mais on a une aspiration. La première chose qui se produit lorsqu'on est converti, on reçoit un amour pour les commandements de Dieu. Est-ce que ça vous a fait ça? Oui, hein? Avant les commandements, c'est les commandements, quoi. Mais une fois qu'on est sauvé, les commandements, et qu'on trouve donc qu'ils sont intelligents, qu'ils sont beaux, qu'ils sont saints, qu'ils sont bons, et plus on les approfondit, plus on les apprécie, quoi. Mais ça, c'est un signe qu'il s'est passé quelque chose dans nos vies. Avant, on était indifférent, maintenant on aime. On voudrait bien ne plus pécher. Comme disait un puritain, avant, on aimait le péché. Après notre conversion, on haït aimer le péché. Oups! Il y a encore une espèce d'amour superficiel pour le péché, mais on haït avoir encore cette affection-là pour le péché. On voudrait tellement pouvoir honorer notre Dieu parfaitement, comme il le mérite si bien d'ailleurs. Donc, les évidences doivent parler plus fort que les arguments. C'est beau de parler aux autres de l'Évangile, c'est beau d'en glisser des mots, puis de dire à quel point c'est beau, puis de sortir des belles grandes théories mystiques, mais vivre l'Évangile. Dans le premier livre de Samuel, vous savez, le Seigneur avait demandé à Saül d'aller combattre les Amalécites. Et quand le Seigneur exerçait ses châtiments, dans l'Ancien Testament, vous le savez, il exerçait ses châtiments. Hein, il ne disait pas « tu vas les chatouiller » ou « tu vas les battre avec un mouchoir en papier ». Non, non, tu vas tous les éliminer. Tu vas tous les éliminer. Quelle est l'expression qu'on a en français? Ça ne me revient pas, enfin, ça va venir. Il fallait toutes les égouiller, voilà, simplement. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, il faut qu'ils restent strictement rien d'Amalécite et cite. Alors donc, Saül part en guerre et effectivement, une victoire extraordinaire qu'il remporte. Alors, il est de retour ensuite avec le peuple et tout va très bien. Et dans 1 Samuel 15, versets 13 à 14, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Oh, oh, mais... » Qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Hein? Qu'est-ce que ce mugissement de bœuf que j'entends? Oui, les évidences parlent plus fort que les arguments ici. On a fait tout ce que l'Éternel nous avait demandé. Ben il va dire, ben oui, mais c'est parce qu'on a gardé les meilleures brebis pour les autres. Voyez? Et Samuel l'a sérieusement réprouvé là-dedans. Alors, les évidences sont extrêmement importantes et elles doivent parler aussi fort, même plus fort que nos arguments. Le point est très simple. Malgré qu'on soit encore des pécheurs, de nouvelles créatures agissent comme de nouvelles créatures. Amen. Oui. Risquez-en de temps en temps, ça va vous faire tellement de bien. Quelqu'un dit avec justesse, nous sommes construits pour que nos corps émettent des réponses inhibitrices ou des réponses stimulatrices. Quand on marche, par exemple, ou quand on court, si on a les bras baissés, la tête baissée, ça réduit considérablement notre poids, ça nous inhibe. Hein, on est inhibé. Mais on peut être stimulé. Si on relève, si on redresse ses épaules, si on relève la tête, notre marche va beaucoup mieux et notre course s'opère beaucoup mieux ainsi. Alors, c'est inhibiteur ou c'est stimulateur. Par exemple, quand nous courons, on vient de le mentionner, on est beaucoup plus efficace lorsqu'on a la tête haute, et ça va ainsi également pour notre marche chrétienne. Il y a un commentateur qui répond au nom de Brian Chappell qui a dit « Lorsque la grâce relève nos têtes, Dieu relève nos cœurs pour l'adorer. » Il faut savoir où regarder. Si on se regarde au nombril, ça déprime. Hein? Mais quand on regarde à lui, quand on regarde au Seigneur, on est stimulé, on est encouragé. C'est l'invitation du texte que nous avons cet après-midi. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son poème. Nous sommes son poème. Nous sommes son œuvre d'art, comme le traduit également les versions anglaises. Hein. Nous sommes son ouvrage et nous voulons honorer Dieu dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons et dans tout ce que nous faisons. Et ce seront là mes trois points de cet après-midi. Parler comme une personne renouvelée, penser comme une personne renouvelée et agir comme une personne renouvelée. Parce que Dieu, quand il nous renouvelle, pas uniquement en partie. Il y a eu un temps là où on entendait toutes sortes, on a entendu toutes sortes de théologies hein, au fil des années, puis nous-mêmes on en a colporté quelques bizarres aussi. C'est au niveau de l'époque où on disait, bien j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais pas encore comme Seigneur. Comment? Hein? Bon, Jésus, il est sauveur et Seigneur, et quand il renouvelle. Premièrement, donc, parler comme des personnes renouvelées. Le renouvellement de notre discours. Verset 25 et verset 29. Il est question du mensonge et il est question aussi du discours qu'on emploie. Dans ces injonctions, l'apôtre Paul alterne très, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, le négatif et le positif, le dépouillement et le renouvellement. Verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge, ça c'est le négatif, positif, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mot traduit par mensonge ici, il va vous être familier, c'est le mot pseudos, qui a donné tous nos pseudos en français. Tous les pseudos dont on a besoin de se débarrasser, là, on veut du vrai. Hein? Alors, renoncez aux pseudos, dit-il. Bannissez les pseudos. Enfin, c'est le même mot utilisé dans 1 Jean, chapitre 2, versets 20 à 23, en référence à l'esprit de l'Antéchrist. Qui est le père du mensonge? C'est Satan lui-même, n'est-ce pas? Qui est vérité, chemin et vie? C'est le Christ lui-même. Alors, nous sommes des disciples de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Satan est le père du mensonge. Le mensonge, c'est la tapisserie de l'humanité. Vous d'accord avec ça? Il n'y a que mensonge, demi-vérité ou des vérités un peu triturées, arrangées, ajustées, décorées. Hein? Pour bien faire l'affaire de nos propres personnes. C'est vraiment la tapisserie de l'humanité dans toutes les sphères. Et ça commence à la petite enfance. C'est nos petits chérubins là, qu'on aime tellement, nos petits bébés chérubins. Là. Ils sont moins chérubins aux yeux du Seigneur qu'aux nôtres. Hein. Ils viennent au monde dépravés avec ce qu'on appelle communément le péché originel qui se manifeste d'ailleurs de plus en plus au fur et à mesure où ça grandit. Et il atteint un peu un moment crisiaque à l'adolescence. Et c'est là où ça brasse beaucoup. Hein? Et c'est là, en quelque sorte, où les grands virages se prennent, souvent de fois, à l'âge de l'adolescence. Est-ce que je vais prendre les valeurs de l'Évangile ou les valeurs du monde? Parce que le monde a des pseudo-valeurs. On parlait de pseudo tantôt. Le monde a des choses à offrir qui sont quand même appétissantes, attirantes, des joies éphémères qui coûtent très cher, qui coûtent même nos éternités. Mais le monde a quelque chose à offrir, vous voyez? Donc, ça commence par la petite enfance. Ça suit après ça à l'école secondaire. On voit le plagiat. Bon, vous savez, et nos facultés de théologie, il ne faut pas se leurrer, là, ne sont pas à l'abri de ça non plus. On en voit de toutes les sortes, là aussi. Et nous macérons dans une culture de mensonges. Je dis bien nous macérons dans le jus du mensonge de la société et de la culture, dans la politique, dans les médias, dans les affaires, dans nos vies personnelles. Le contracteur, par exemple, le contracteur qui travaille au noir en complicité avec son client, sans aucun problème de conscience, parce qu'il se dit, Tout le monde le fait. Quel argument, Seigneur, tout le monde le faisait. Hein? Tout le monde le fait, oui. Kent Hughes, un autre commentaire biblique que je trouvais très amusant, il raconte une petite anecdote. C'est l'histoire d'un boulanger qui achète son beurre chez le fermier. Il achète ça à la livre. Mais il soupçonne à un moment donné que la livre ne pèse pas une livre. Qui s'en fait passer une, voyez-vous, à l'occasion. Alors, il décide de vérifier minutieusement ce qui se passe et de peser chaque livre qu'il achète, et il se rend compte effectivement que ça ne pèse pas une livre. Alors, il se dit, je me suis fait avoir par le fermier. Il fait donc arrêter le fermier, le traîne en cour. Et là, n'est-ce pas, on s'en donne à qui mieux, hein? Mais le juge rejette la cause. Vous savez pourquoi? Parce que le fermier, lorsqu'il est allé plaider, il dit, moi, je n'avais pas de pesée pour peser mes livres de beurre. Je les pesais avec un pain d'une livre que j'avais acheté chez le boucher en question. Et vous, les deux étaient aussi voleurs l'un que l'autre, somme toute. Je trouve que c'est quand même assez amusant comme illustration. Et ouais, ça parle, hein, qu'on le veuille ou non. Mais c'est ça, nous vivons dans une culture de crise éthique. Que ce soit à Wall Street, sur la rue Saint-Jacques, que ce soit dans les médias, notre culture vit une très sérieuse crise éthique. Plus que... Est-ce que je peux dire plus que, qu'auparavant? Même quand j'étais petit, là, ben c'est vrai que j'allais dire que c'est très loin, là. Mais quand on écoutait les nouvelles, on dit, on reçoit une vérité quelque part. Les journalistes étaient peut-être un peu biaisés, mais c'était pas comme aujourd'hui où c'est vraiment, vraiment complètement biaisé. C'est de l'éditorial seulement. J'étais journaliste, moi. Et on essayait de faire un minimum de cas de l'objectivité, quand même. Que dire de même des entourloupettes à l'impôt? Des récits qu'on se fait les uns aux autres en les embellissant lorsqu'on les rapporte aux autres, hein? On est pas mal tous pareils, hein? Quand on cite l'autre, on prend une petite voix niaiseuse, là, pour être certain qu'on va le diminuer encore un peu plus. Et là, on dit, bien là, je lui ai répondu que... Et nos arguments faisaient... faisaient autorité, quoi. On est généralement celui et celle qui paraît bien. Lorsqu'on joue la victime aussi, c'est une forme de mensonge. Il y a tellement de façons de mentir. Le mensonge connaît tellement d'avenues. Le mensonge, c'est multifacétique. Ça se présente sous toutes sortes de formes, depuis la non-vérité jusqu'à l'exagération. J'entends par exagération, là, triturer un fait. Je ne parle pas de la forme grammaticale de l'exagération qui a sa place, mais vraiment transformer un fait, le faire bifurquer par toutes sortes de moyens, par l'ajout d'un peu de faux à ce qui est vrai, sans oublier les silences coupables. Je crois que c'est Shakespeare qui disait « Le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en représentation. » Il y a une belle vérité là-dedans. Dès qu'on sort de chez nous, on n'est pas tout à fait pareil à ce qu'on était avant qu'on ferme la porte. On devient une autre personne. On vient de tomber sur le stage, dirait l'autre. Le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en quelque part en représentation. Docteur Paul Tournier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Docteur Paul Tournier, il a écrit des choses intéressantes, entre autres, le personnage devant la personne. C'est pas fou ça non plus, ça revient à Shakespeare. Le personnage devant la personne. On parle parfois nous-mêmes, lorsqu'on entend des excuses de quelqu'un, on dit, oui, mais c'est quoi les excuses derrière les excuses? Il y a toujours une façade, en quelque part, le mensonge. Et il n'y a personne qui échappe. On se sent tous visés par ce discours-là cet après-midi. Puisqu'on y est tous en devenir. Je pense qu'il n'y a personne parmi nous qui est encore glorifié. Alors, on est tous en devenir, on est tous en quelque part dans cette business-là, passez-moi l'expression, d'une vérité un peu diluée. Quand je dis un peu, je suis généreux. On fait tous un peu de politique en quelque part. Ça m'amuse beaucoup parce que lors de notre dernier cours, samedi dernier, je me suis fait reprendre par quelqu'un. Je faisais un peu de politique. Je faisais pas de mensonge, mais c'était pas loin. Je faisais un petit peu de politique. Et quelqu'un m'a dit, mais tu n'as pas le droit de dire cela. Et je trouvais ça très bien qu'il le fasse. On a besoin de s'entraider et de se reprendre les uns les autres. Pour être authentique, il faut beaucoup plus qu'un effort de la volonté. Il faut la grâce surnaturelle de notre Dieu. Et ça se fait progressivement de marche en marche. Vivre dans la vérité, c'est d'autant plus important dans la communauté de foi. Le monde ne vivra jamais dans la vérité, sinon il ne serait plus le monde. Si le monde vivait dans la vérité, bien, ça ne serait plus le monde, ça serait l'Église. Hein? Le monde ne vivra jamais dans la vérité. Mais la communauté de foi, c'est son combat. D'apprendre à vivre dans la vérité. Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10 nous dit, « Ne mentez pas les... » Il parle à des chrétiens. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » On est en train de se renouveler. Alors, dans votre processus de renouvellement, là, hein, de plus en plus, on sort le mensonge du décor. La conjonction cœur est importante. Bien, dans la même veine, l'apôtre Paul de nous dire ici, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous vous souvenez de nos belles conjonctions? Mais où donc est Carnior? Il y a un beau car ici, conjonction. Car nous sommes membres les uns des autres. La conjonction ici représente un incitatif très important. Car nous sommes membres les uns des autres. L'image est absolument hallucinante. Les membres d'un corps ne peuvent se mentir entre eux. Imaginez que mon oreille essaie d'en passer une à mon œil. Imaginez, par exemple, que ma main refuse de dire à mon séant qu'un rond de poil, c'est chaud, puis il me laisse m'asseoir dessus. Voyez-vous, c'est impensable. Un corps deviendrait dysfonctionnel s'il commençait à se mentir, là, si les membres commençaient à se mentir les uns aux autres. Mais c'est l'image que l'apôtre emploie ici, car nous sommes membres les uns des autres. Si les membres d'un corps se mentent entre eux, le corps devient dysfonctionnel. Ce que l'apôtre nous communique par cette analogie, c'est simplement que nos paroles, ce que nous racontons, on en raconte des choses, hein, affectent la capacité de fonctionnement du corps de l'Église. L'importance, on peut en raconter autant qu'on veut, mais selon la vérité. Ici, les propos de Jacques, le demi-frère du Seigneur, chapitre 1, verset 26, nous dit, sont très appropriés d'ailleurs. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est fausse. » On pourrait élaborer aussi sur la calomnie, la médisance, les prétentions, les faux fuyants, et encore et encore et encore, tous les sous-produits du mensonge. Verset 29, c'est intéressant, on fait un petit ajout au renouvellement de notre discours. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Hein? Ça va de soi qu'il n'est sorti aucune parole mauvaise de nos bouches cette semaine? Là, je ne vous demande pas d'emmène là-dessus. Hein? Et quand il ne sort pas de nos bouches, il reste là dans le fond, puis il demande uniquement qu'à sortir, n'est-ce pas? Le contraste entre une parole mauvaise et une parole de grâce, c'est toute la différence au monde, vous savez. Il est beaucoup plus fort dans le grec qu'en français. Il s'agit du mot ici « sapros », parole mauvaise. Le mot « sapros » qui veut dire littéralement une parole corrompue et qui corrompt, comme pour un fruit, par exemple. Prenez un fruit pourri, mettez-le avec des fruits non pourris, et ce n'est pas les fruits non pourris qui vont corriger le pourri. Hein, c'est le pourri qui va affecter les autres. Voyez? Alors, le mot « sapros », qu'il ne sorte de votre bouche, aucun « sapros », aucune parole qui va corrompre et qui va être corrompue. On comprend donc l'image, parole qui corrompt, une parole qui édifie, ce sont les paroles qui nous sont recommandées de dire. tout ce qui est fait doit être fait pour l'édification de l'Église, hein, et pour l'honneur de Dieu. On ne peut pas lire ce verset sans penser à ce que Jacques nous rapporte dans son épître au sujet de la langue, à savoir que le discours est un outil fort puissant au service du bien et du mal. C'est intéressant, hein, la question du discours. La pensée discursive. Nous sommes des créatures de la parole. On est écrit par la parole. Nous sommes des créatures de la parole et nous sommes les seules créatures qui avons reçu la parole. Bon, les perroquets émettent des sons, mais ils n'émettent pas de parole. Il n'y a aucune pensée discursive dans le cerveau d'un perroquet. Nous sommes les seuls qui avons reçu la pensée discursive. Et c'est très intéressant parce que notre parole n'est pas créatrice, mais elle peut être créative, si on veut. On peut encourager quelqu'un ou on peut décourager quelqu'un avec notre discours, hein? D'où l'importance de la parole. C'est extrêmement intéressant. Si je faisais un deuxième doctorat, je le ferais probablement là-dessus, sur la question du davar. Davar, c'est le mot hébreu pour parole dans l'Ancien Testament. Dieu crée par sa parole. Parce que cette parole-là, on regarde les Juifs parler. Les Juifs ne parlaient pas pour rien dire. Comme on dit souvent, les Juifs n'étaient pas dans la joking business. Hein? Ils disaient vraiment les choses comme faire se devait. Et très, très souvent, quand on regarde les noms qu'ils donnaient à leurs enfants, c'était prophétique. Alors, il y a quelque chose dans le davar qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement important. Et c'est un don qui nous a été fait parce que nous sommes à l'image de Dieu. Comment est-ce qu'on s'en sert? On peut s'en servir, comme on le disait tout à l'heure, avec des saproïs. C'est s'approche au pluriel, hein, avec des paroles corrompues ou des paroles d'édification, des paroles de proclamation de la vérité qui vont édifier puis qui vont conduire plusieurs à l'Évangile. Le davar, le logos, hein, quand on arrive dans le grec. Je suis perdu encore, bien sûr. Je suis rendu comme Jeff Lorrain, j'ai de la misère à suivre mes notes. pourtant, il est plus jeune que moi, lui. Alors, le contraste, donc, entre une parole qui édifie. Nous en étions où? Ah oui, Jacques. Jacques qui nous dit que la parole est un outil fort puissant au service du bien et du mal. Jacques, chapitre 3, versets 5 et 6. « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est toute une affirmation, mais combien vraie. On ne s'arrête pas toujours à ça, hein? À comprendre que ce don si précieux qui nous a été donné, et peut devenir également le plus dangereux lorsque tu les as à mauvais escient. Mais c'est ça le mal. C'est la mauvaise utilisation du bien. C'est ce qu'Augustine, c'est ce que la parole nous a fait comprendre. N'est-ce pas? Hein? C'est pas uniquement l'absence de bien, c'est la mauvaise utilisation des bons dons que Dieu nous a faits. On déforme les bons dons. C'est pour ça qu'on a constamment besoin de réforme. Hein? Semper reformanda, constamment en train de se réformer. Et ça m'amène à mon deuxième point, versets 26 et 27. D'abord, le premier point, c'était quoi donc? Parler, le renouvellement de notre discours. Le deuxième point, penser comme une personne renouvelée. Au début, c'était parler comme une personne renouvelée. Là, c'est penser comme une personne renouvelée. Renoncez, hein, dépouillez-vous de la colère. Et ce deuxième exemple-là, il est exprimé uniquement à la forme négative. Mais ça va de soi qu'on comprend ici une colère contrôlée en opposition à une colère, dirait-on, égoïste ou pécheresse, ce qui est plus notre spécialité que les colères contrôlées. Mais la colère elle-même n'est pas un péché en soi. Se fâcher, ce n'est pas commettre un péché de facto. Vous savez, quand on se fait irriter, gratouiller pendant un certain temps, bon, ben, à moins d'être des sceptiques, des docteurs Spock, on finit par réagir, à quelque part. Alors, la colère n'est pas un péché. Nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament où on voit Dieu en colère contre les méchants. Nous avons également parfois, et même parfois, Dieu en colère contre son peuple rebelle. Hein? Nous avons également dans le Nouveau Testament Jésus qui se met en colère. Matthieu 21, 12, 13. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » On est loin du petit Jésus blond aux yeux bleus, un peu efféminé comme on retrouve dans les images. Il devait être assez bien costaud, hein, pour vider la place, renverser les tables, sortir les animaux. Écoutez, il fallait être en forme, hein. Et il a fait le ménage du temple complètement. Offensé, irrité, outragé de ce qu'on avait fait de la maison de son père, littéralement, un temple de voleurs. C'est un petit peu comme si là, il y avait des gens qui se mettaient à vendre toutes sortes de choses derrière l'église ici pendant qu'on a le culte. Marc chapitre 3, verset 5, Jésus promenant ses regards sur eux avec indignation, nous est-il dit, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. On sait que les autres autour le surveillaient en disant, est-ce qu'il va faire une guérison le jour du sabbat? Une théologie mal placée, pour ne pas dire une très mauvaise théologie, c'est dire que nous pouvons expérimenter une colère juste. Et c'est pourquoi Paul introduit le sujet en citant le psaume 4, verset 5. « Dans votre colère, ne péchez pas. » Il y a donc une différence entre la colère pécheresse et la colère non pécheresse. Par exemple, c'est normal d'être en colère devant une grave injustice flagrante. Mais nous devons admettre que nos colères sont souvent motivées par des motifs beaucoup moins glorieux, hein? Comme l'égoïsme, l'orgueil et les sentiments personnels. C'est le genre de colère qu'il nous faut confesser et auquel il faut renoncer. John MacArthur écrit ce qui suit. Dans sa Bible en français, là, bien sûr, MacArthur. La colère qui est un péché, par contre, est une colère de protection et de service de soi, hein, qui se manifeste lorsqu'on se sent soi-même offensé. Ça veut donc dire que c'est nous qui sommes revenus au centre, ce n'est plus Dieu. On n'est pas offensé parce que Dieu n'a pas été honoré ou glorifié, on est offensé parce qu'on était offensé nous-mêmes. Et on ajoute à cela, bien sûr, la tonne d'avenues arpentées par la colère, comme l'irritation, l'esprit de contradiction, l'obstination inutile. Bon, j'en passe. Vous connaissez la panoplie, le catalogue. Le manque de contrôle sur la colère se manifeste par sa persistance et par sa vigueur dans son expression. Verset 26. « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Comment est-ce que vous interprétez cela? On ne doit pas se coucher fâché? Pas toujours simple. Hein? C'est fictif. Vous êtes marié, vous avez eu un conflit. Et là, vous allez vous coucher. Et là, l'homme, généralement, tend à dormir un peu plus vite. Hein? C'est de façon générale, je pense, que les femmes. Il veut dormir et la femme, il dit, « Mais là, j'ai ri. Faudrait qu'on règle ça. » C'est pas le temps, là, vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas obligé de régler ça maintenant. Sans que ce soit réglé, ce qui est important, c'est qu'intérieurement, ce soit réglé. Que la rage ne reste pas là. Que l'amertume ne reste pas là. Et que tous les scénarios qu'on se fait lorsqu'on est contrarié, à quel point on se victimise, « C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps moi, je parle pour rien, il comprend rien. Hein? » Ça, il faut chasser cela. Ça vient de l'ennemi intérieurement. Puis il n'y a personne qui va nous dire le contraire de cela, on est tout seul à le penser, hein? Alors, on donne libre cours à cette colère-là. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on règle la question avant d'aller au lit, cependant, on ne laisse pas nos émotions continuer à se mouvoir dans cette colère-là. La rage n'est satisfaite que par une forme de représailles. D'accord avec ça? Et c'est ce qu'il nous faut contrôler. Lorsqu'on est fâché contre quelqu'un, hein? Une forme de représailles. Pourquoi est-ce que Paul semble aussi soucieux de la durée et de l'expression de la colère dans nos cœurs? Bien, il nous le dit au verset 27. « Ne donnez pas accès au diable. » Puis là, je ne vais pas vous donner un cours de grec, mais le mot était trop beau pour que je le laisse passer. C'est le mot « topos ». Le mot « topos » qui veut dire une place, une position. « Ne donnez pas une position au diable. » La position est vacante. Viens-t'en, mon pite. Et bon, ne donnez pas une position au diable. C'est littéralement ce que ça veut dire. Et tant ou aussi longtemps qu'on garde cette colère-là, et qu'on la nourrit, et qu'on la travaille sur tous les côtés, et qu'on la caresse, on est en train de donner une position, un accès au diable. On sait trop ce qui se passe hein, dans notre intérieur lorsqu'on est en colère. On n'est pas en train de se demander quel cadeau on va acheter à l'autre. Bien au contraire, on se fait des scénarios. On n'en finit plus. La colère conservée, hébergée, lorsque secrètement nourrie, détruit les relations avec la corrosion du ressentiment. On dit souvent que la colère est un acide qui détruit son contenant. Quelle vérité! Et ça m'amène à mon troisième point. Donc, penser comme des gens renouvelés, parler comme des gens renouvelés, agir comme une personne renouvelée, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Les mensonges, les propos corrompus, la colère, et maintenant le vol. Hein, c'est le journal d'aujourd'hui. Il n'y a rien de changé. Le vol sous tous ses angles. Et là, on pourrait sortir toute une pléthore d'exemples à partir du vol des logiciels interdits, le téléchargement illégal de la musique, les vidéos piratées qui ne sont que la pointe de l'iceberg d'une culture où on augmente les prix de détail en raison des vols et des abus de toutes sortes. Et ce ne sont que quelques exemples. Les gouvernements ne cessent de lutter contre les paradis fiscaux et faut bien le dire aussi, contre le travail au noir, contre les évasions, contre les taxes multiples, et le gouvernement lui-même semble souvent de fois hors contrôle dans sa gestion de nos taxes et de nos impôts. Il n'y a personne qui y échappe non plus. Et il n'y a pas d'excuse en disant on abuse de nous, donc on peut en sauver un peu. Regardez partout dans l'histoire, jamais les rois n'ont traité avec une très très grande décence le peuple, même Salomon. Salomon avait mis tellement de taxes que lorsque Roboam est arrivé en tête du pays, ils ont dit « Écoute, donne-nous un petit jeu, on n'est plus capable. Hein? » Avec toutes ces femmes à nourrir, ces constructions, etc., etc., il avait surtaxé les gens. Alors les gens ont toujours été un peu abusés et il a toujours été dit « Donne à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. » Même les chrétiens ne sont pas immunisés contre ce genre de tentation-là. On évoque bien sûr toutes sortes de prétextes pour nous justifier lorsqu'on sent qu'on a pris avantage de nous. On veut rationaliser, on veut un peu se reprendre. Et la tentation n'est pas petite. Quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas si longtemps, il me dit « Écoute, j'ai 8 000 $ de taxes que je peux sauver parce que l'entrepreneur me dit qu'il aimerait mieux me faire ça sans taxes. » 8 000 $, c'est des sous. Particulièrement dans un moment où l'économie est en train de s'écrouler, n'est-ce pas? C'est beaucoup de sous, 8 000 $, en disant « Je vais le faire juste une fois. » Hein, c'est que la tentation n'est pas petite dans ces circonstances-là. Le texte qui nous occupe ne permet pas ce genre de fantaisie. Le Seigneur va prendre soin des abuseurs, il va prendre soin des voleurs. L'apôtre vient contrecarrer la tentation de voler en faisant ressortir l'envers du vol. Vous allez me pardonner un autre mot grec, je ne peux pas le laisser passer non plus. C'est le mot kopiao, qui veut dire plus que travail, qui veut dire dur labeur. Dur labeur. La paresse et le manque de persévérance au travail ne s'harmonisent définitivement pas avec la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est contre-culturel. Dans les négociations syndicales, qu'est-ce qu'on veut? Des augmentations de salaire et des diminutions d'heures de travail. C'est toujours la même chose. Quand les gouvernements s'en vont en élection, qu'est-ce qu'ils nous promettent? Toujours une prospérité et un bien-être. Quand on a sorti l'informatique, société des loisirs, c'est toujours plus de possibilités, plus de bénédictions, moins de responsabilités. Paul poursuit en donnant une différente raison pour laquelle nous devrions travailler. Afin qu'en faisant ce qui est bien de nos mains, mais d'abord, ça permet de subvenir à nos propres besoins, ce qui devrait être. Est-ce quelque chose de plus révoltant que quelqu'un qui est en pleine santé? On comprend qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, on le comprend très bien, et on devrait leur donner beaucoup pour les aider à vivre dans leurs difficultés. Mais combien sont en parfaite santé, capables de travailler, mais décident qu'ils ne le feront pas parce que ça ne les tente pas? Et ils ne diront pas qu'ils sont paresseux, ils vont dire qu'ils sont instables. On va sortir toutes sortes d'adjectifs là pour cacher ça, mais c'est frustrant pour les autres de vivre comme ça au crochet de nos taxes, au crochet de notre société. Donc, afin qu'en faisant ce qui est bien de nos mains, nous ayons quelque chose à partager avec les autres. Et ça, c'est un changement radical de condition. Passant de voleur à pourvoyeur. Même dans l'Église, on a des gens qui sont davantage, passez-moi l'expression, à la réception qu'à l'expédition. Ils viennent pour recevoir. Vous avez déjà entendu l'expression « Je suis allé à l'Église ce matin, je n'ai rien reçu. » Vous avez déjà entendu ça? Parce qu'on leur répond, mais qu'est-ce que tu avais investi dedans? Qu'est-ce que tu as mis dedans? On se prépare pour venir à l'Église. On ne va pas à l'Église comme on va au cinéma. On se prépare pour aller rencontrer notre Dieu, vous savez. Et c'est dans la mesure où nous sommes préparés qu'on va recevoir. On s'attend à recevoir, les autres vont faire tout le travail. Hein? Comme vous avez si bien fait ce matin avec Diane, on s'est préparé. Et notre adoration, elle avait de la gueule. Hein? On a chanté avec enthousiasme, avec zèle, avec nos cœurs. Désireux vraiment de faire monter nos louanges au Seigneur. Et avec Danny, bien sûr, notre valeureux pianiste. L'idée de l'apôtre ici, c'est le changement opéré. Autrefois, vous tentiez de priver les autres de leurs biens, maintenant vous voulez contribuer. Alors, on n'est plus parti du problème, mais parti de la solution. Le texte suggère ceci. On ne cesse pas d'être un voleur parce qu'on a arrêté de voler. On cesse d'être un voleur lorsqu'on cesse de profiter d'autrui pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est la définition biblique. C'est ça, une communauté. Conclusion, versets 30 à 32. L'apôtre va conclure, versets 30 à 32, donc, avec le renoncement à 6 vices et la culture de 3 vertus. On aurait pu faire un autre message là-dessus, là, mais on va le faire assez rapidement ici. Renoncer à, verset 31. Nous avons ici une espèce de synthèse, une espèce de résumé de ce que l'apôtre nous a raconté là. Paul, dans un premier temps, fait mention de 6 vices. L'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté. Et dans un deuxième temps, il écrit « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » 3 vertus. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardon, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif. Moi, je suis humain, on a des voitures, on met l'équipement qu'on veut dessus, mais les humains ne sont pas comme ça. On peut dire, moi, je choisis le pardon, je ne le choisis pas. Ça va de soi. Si on a été pardonné par le Christ, si on a reçu le pardon, on l'accorde aux autres. C'est la raison pour laquelle, dans notre Père, il nous a dit que si on ne pardonne pas aux autres leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas aussi nos offenses. Ce n'est pas qu'on est sauvé en pardonnant aux autres. Mais le texte est extrêmement simple. Si on n'est pas capable de pardonner aux autres, ça signifie qu'il n'y a pas de place dans notre cœur pour le pardon. Il n'y a pas plus de place pour celui qu'on aurait pu recevoir que pour celui qu'on donne, voyez-vous. Ça va de pair. Si on l'a reçu, on va l'accorder, ça va de soi. On sauverait du temps si on pardonnait plus vite. Hein? À place de se bouder un petit bout de temps, si on pardonnait assez rapidement, on sauverait du temps et de l'énergie. Cette nouvelle vie que Paul nous décrit ici peut à première vue sembler banale et peu spectaculaire. Elle ne nous rapporte pas d'action puissante, impressionnante, mais bien plutôt des humbles vies transformées par le Saint-Esprit. Et j'aime tellement ça, de cette compréhension du christianisme-là. Une simple vie transformé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je suis venu à l'Évangile avant que certains d'entre vous naissent. Je suis venu en 1977 à l'Évangile. Et dans le monde évangélique à l'époque, n'est-ce pas, tout était surnaturel, comme si le naturel n'était pas en soi surnaturel. Hein. On ne vivait que de... Puis il y en a du surnaturel, ça va de soi. Là. On n'est pas en train de devenir des flegmatiques et des gens super, hyper rationalistes. Mais le christianisme, c'est une vie toute simple, qui se vit, comme on dit en anglais, dans le humdrum de notre daily life, qui se vit dans la simplicité de notre quotidien. C'est pas toujours... On le voit dans la réponse à nos prières. Combien de fois Dieu répond à nos prières exactement comme on s'y attend? Généralement, ça n'arrive pas. C'est pas dire qu'il ne répond pas, il répond différemment à nos prières. Parce que ses voix sont infiniment plus élevées que les nôtres. J'ai commencé à lire un livre, là, j'ai arrêté pour un petit bout de temps. C'est écrit par Michael Horton. Vous devez connaître Michael Horton, c'est un très bon théologien. Il enseigne à Westminster Seminary, en Californie. Ça s'appelle « Ordinary ». C'est simplement que la vie chrétienne, ça se vit dans l'ordinaire. Quand on regarde les chrétiens marcher sur le trottoir, ils ne sont pas en train de léviter. Hein? Ils touchent au trottoir et ils marchent comme les autres. Hein? Alors, ça se vit simplement, la vie chrétienne. Mais on est un peu comme Gédéon. Souvenez-vous Gédéon, quand l'Éternel se présente à lui, Gédéon avait un problème avec les Madianites, pas juste lui, le peuple tout entier. Quand il préparait l'épicerie, que faisaient les Madianites? Qui était un peuple qui se promenait partout, venait, prenait la récolte, s'en allait avec, le servant aux Israélites. L'Éternel se présente à Gédéon. Il est en train de battre son froment. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Réponse de Gédéon? Ah, ouais? Non, pas du tout. Si l'Éternel est avec nous, où sont toutes ces choses extraordinaires qu'on nous a racontées à l'époque? Où sont tous ces phénomènes que Dieu a fait? Pourquoi on n'en a pas, nous autres? Il faut battre notre froment pour se le faire voler. Voyez-vous? Comme si Dieu n'était pas dans nos épreuves du quotidien. Dieu était dans le vol du froment par les Madianites. Tout ce que nous avons vu dans la péricope de ce matin, de cet après-midi, pardon, versets 25 à 32, puise sa source au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment est-ce qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu? Dans les versets 25 à 32. Ce verset nous amène à une vérité très importante, bien-aimés. Toute notre marche chrétienne, tout notre discours, toute notre conduite, toute notre pensée sont liées à la direction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on vit par un autre esprit? Est-ce que le Seigneur envoie un autre esprit que son Saint-Esprit à nous? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas tomber là, dans une espèce de littéralisme sclérosant non plus. Sclérosant non plus. Nous croyons à, vous croyez, j'espère, on en parlera peut-être éventuellement, là, mais pour ceux à qui ça dit quelque chose, nous croyons à l'impassibilité divine. Hein? Dieu n'a pas... Enfin, on y reviendra, là. Mais il ne faut pas s'imaginer que le Saint-Esprit est dans un coin du ciel. Il a été attristé. Il boude un peu. Le Père et le Fils viennent. Qu'est-ce que tu as, Saint-Esprit, aujourd'hui? Ça ne va pas. Alors, regarde au Seigneur, mais c'est lui le Seigneur. Voyez-vous, il ne faut pas prendre ça de manière aussi littéraliste que ça. Dieu est impassible. Dieu n'a pas de fluctuation dans ses émotions. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas d'émotion. Dieu a des émotions, mais il n'y a pas de fluctuation dans ses émotions. Dieu est toujours au maximum de ses émotions. Il est toujours amour, il est toujours colère, il est toujours justice, il est toujours sagesse. Comprenez-vous? Dieu, il ne fluctue pas là-dedans. Dieu ne nous aime pas moins parce qu'on a eu une journée un peu moins bonne qu'une autre. Et là, on arrive pour prier, mais là, il m'aime moins. Non, non, il n'y a pas de fluctuation dans son amour. Dieu, il est impassible, passéo. Il n'y a pas de fluctuation de passion. Enfin, on viendra là-dessus éventuellement. L'expression ici, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, veut simplement dire heurter sa sainteté. Aller à l'encontre de sa nature. Il est celui qui nous a scellés, baptisés, qui nous enseigne et qui nous habite. Si nous vivions dans une plus grande conscience de cette réalité-là, ça aurait un impact sur notre modus vivendi. Hein, on y penserait à deux reprises avant de faire ceci et de faire cela. Quand on parle de l'omniscience de Dieu, là, c'est pas que Dieu est bien, bien haut, mais il a une vue incroyable, il voit tout ce qu'on fait. Bien sûr que oui, mais il y a l'Esprit Saint en nous. Il nous habite. Il connaît même nos pensées, il connaît même le tréfonds de notre intérieur. Non seulement vivons-nous sous le regard de Dieu, mais nous sommes le temple Nous sommes le temple de son Saint-Esprit. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Dieu aime son peuple. Le premier sanctuaire qu'on retrouve, le premier tabernacle qu'on retrouve, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden. Dieu voulait être avec eux autres. Bon, on sait ce qui s'est produit. Mais Dieu a encore voulu être avec son peuple. Il a démarré le plan de rédemption. Quel projet de rédemption! Et comment Dieu était-il avec son peuple dans l'Ancien Testament? Dans le tabernacle! La manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament était dans le tabernacle, avec les chérubins protecteurs sur le propitiatoire. Et partout où le peuple allait, le tabernacle suivait, n'est-ce pas? Où il suivait le tabernacle, n'est-ce pas? Et tout ça était préparatoire. En même temps que ça en disait long, il y avait une réalité, mais c'était préparatoire à la venue de Jésus. Il a habité parmi nous, skenoo, littéralement, il a planté sa tente. Parmi nous, nous dit Jean chapitre 1, verset 14. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné son Esprit Saint. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous donner, je ne vous laisserai pas orphelin, hein? L'Esprit de consolation va venir. Puis moi, je vais aller vous préparer une place parce que là où je suis, je veux que vous soyez. Quel bel agenda! Quel incitatif à poursuivre notre marche dans la sainteté. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Dieu l'a choisi ainsi. Dieu prend plaisir à cela et c'est la raison pour laquelle il a fait toute l'œuvre de réconciliation nécessaire dans sa parfaite souveraineté. Et même alors que nous étions comme les Éphésiens l'étaient dans les premiers chapitres, n'est-ce pas, endurcis, obscurcis, rebelles à Dieu, insensibles, ignorants de sa parole, Dieu est venu nous chercher pour nous sortir des ténèbres, comme il est allé chercher Abraham, l'adorateur du soleil à l'époque, n'est-ce pas, à Ur en Chaldée, pour l'amener à lui, pour se former un peuple qui lui appartient. En propre. À lui soit gloire et honneur en Christ Jésus. Amen.